zone buissonnière. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans les zones buissonnières. Aujourd'hui, nous allons écouter le sixième et dernier épisode du podcast Sur le Vif. Pour clôturer cette série de témoignages autour des violences intrafamiliales au cœur des montagnes du centre Ardèche, vous allez pouvoir écouter une histoire. Cette histoire, c'est celle d'une petite ours, de sa volonté et de son courage lorsqu'elle s'est hissée pour la première fois contre les gestes interdits de son grand ours, brisant ainsi le silence déchirant qui régnait dans sa famille depuis trop longtemps. Bonne écoute.
Il y en a qui ont des questions sur le spectacle ou des remarques. Ouais.
Papy, vous allez en faire quoi?
Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de ce papy?
On mange.
On mange. Est-ce que c'est bien ce qu'il a fait?
Non.
Est-ce que tout le monde a compris pourquoi c'était pas bien ce qu'il avait fait?
Parce qu'il a fait des bisous baveux.
Ouais.
Et on n'a pas le droit de faire.
Sur le vif.
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 Sur le vif. Un podcast qui invite à élever la voix, nos voix, contre les violences intrafamiliales en Centre-Ardèche.
Clôturer cette série témoignages autour des violences intrafamiliales au cœur de nos montagnes, nous allons vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est celle d'une petite ours, de sa volonté et de son courage, lorsqu'elle s'est hissée pour la première fois contre les gestes interdits de son grand ours, brisant ainsi le silence déchirant qui régnait dans sa famille depuis trop longtemps. Un courage qu'elle a transformé, aujourd'hui devenue grande, en un spectacle virevoltant, pour transmettre à d'autres petites et petits ours des clés de compréhension nécessaires. Tout simplement, ce qu'elle-même aurait aimé savoir, comprendre, quand elle était encore qu'une petite ours.
Alors, moi, je m'appelle Mélanie, j'habite à Saint-Pierreville. Actuellement, mon métier, c'est principalement d'être comédienne. Et en parallèle de ça, je propose de la formation aux arts du cirque.
Votre spectacle, il tourne autour de quoi?
Alors, mon spectacle que j'ai créé en 2021, qui s'appelle Une petite ours, c'est un spectacle qui parle de l'inceste. J'ai écrit ce spectacle parce que moi, j'ai été victime d'inceste quand j'étais petite. Et donc, il y a un moment où, dans ma vie, ça m'a paru une évidence qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. J'ai décidé d'essayer de mettre sur scène cette problématique-là. J'ai essayé de monter un spectacle autour du cirque, en sachant que je ne voulais pas spécialement que ça soit que du cirque. Le cirque devait être en soutien. Voilà, c'était pas forcément le langage principal de ce spectacle. Et donc j'ai eu envie de transposer ça sur scène pour pouvoir en parler, pour pouvoir moi-même en parler déjà, pour que ça sorte juste de ma tête et que ça devienne public, entre guillemets, déjà au sein de ma famille, et puis au-delà, que ça puisse sortir de ma petite histoire à moi, et qu'on puisse en parler aussi plus largement, et que ça soit un outil pour les enfants, les adultes, parce que c'est un spectacle tout public, et que ça soit un outil pour aborder cette question et ouvrir le dialogue.
Mesdames et messieurs, ce soir, dans votre ville.
petit ours. Ouais, c'est petit ours. Hein? Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Qu'est-ce qu'elle va nous présenter? Petit ours, mesdames et messieurs, ce soir dans votre ville... Le son de la mort.
Quelle forme ont pris ces violences quand vous étiez enfant? Quel était le proche parent qui vous a fait subir ces violences?
Alors, j'ai été victime d'inceste de la part de mon grand-père paternel. Donc, c'était un épisode assez court, en tout cas dans les actes, vraiment. Donc, voilà, il m'embrassait comme un adulte pour me dire au revoir. Voilà, un bisou avec la langue et tout, enfin, des trucs qui n'étaient absolument pas normal. Ça n'a pas été très long, je pense. C'était quelques mois comme ça. Et puis, j'ai réussi à, voilà, au bout d'un moment, à esquiver ce moment-là. Mais au-delà de ça, c'était une ambiance aussi. Voilà. Si c'est arrivé, c'est aussi parce que c'était une certaine personnalité, parce qu'il avait instauré un climat incestuel dans la famille. Voilà. Donc, et malheureusement, j'étais pas la première victime et j'étais loin d'être la dernière aussi. Donc voilà. Physiquement, c'était court, mais en fait, c'était quelque chose qui était là depuis très longtemps, depuis la génération d'avant, malheureusement, et qui s'est prolongé après, quoi.
Est-ce qu'il y avait des violences psychologiques? Est-ce qu'il vous demandait de ne rien dire également?
Non, parce que, en tout cas, pour moi, ça se passait devant ma grand-mère. Donc, voilà, il n'y avait pas besoin de... C'en était un point, je pense, où il n'avait même pas besoin de dire, de ne rien dire, parce que, voilà, il avait une telle toute puissance que, voilà, je pense qu'il ne se doutait bien que ça n'allait pas poser de problème.
Et votre grand-mère n'a jamais réagi à normaliser cet acte-là?
En tout cas, non. Devant moi, elle n'a jamais rien dit, jamais fait en sorte que ça n'arrive pas.
Et vous l'avez confrontée plus tard, ainsi que vos parents. Est-ce que, à quel moment la parole est sortie pour dire les faits qu'il a commis dans la famille?
Eh ben, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est arrivé il y a assez peu de temps. Voilà, il y a 5-6 ans, quoi, 5 ans. Donc, mes deux grands-parents étaient déjà morts. Et après, oui, j'ai essayé de confronter un peu mes parents à ce qui s'était passé. Mais bon, c'est compliqué de revenir sur des choses. Voilà, ils ont leur justification à eux, avec leur génération, avec leur prisme. Ouais, c'est compliqué de juger ou de... Moi, en tout cas, je leur en veux pas, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre aujourd'hui. Enfin, je me dis qu'aujourd'hui, ça se passerait différemment, mais je comprends qu'à l'époque, voilà, je pense qu'il y a eu une chose tellement instaurée depuis tellement longtemps que c'était évident que ça... que personne n'allait réagir.
Tonton, t'as vu toi? Tu l'as pas vu? Tata, t'as vu toi? Et toi, t'as vu? Non. Et toi, non plus? Oh. Oh, personne n'a vu, alors.
Il y avait zéro réaction, vraiment. Il n'y avait pas de compréhension ou il y avait un évitement de ce sujet?
Il y avait un évitement du sujet. Il y avait quand même ma mère qui disait fréquemment qu'elle n'aimait pas mon grand-père. Qui gardait ses distances avec lui, qui rentrait pas dans son jeu de séduction. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'enfants, on sentait bien qu'il y avait pas, que c'était pas l'amour fou entre eux, mais c'était pas dit. Il faut pas approcher. Enfin, ma mère m'a jamais dit. Moi, je crains que il vous touche sexuellement ou des choses comme ça. Donc voilà, je sentais bien, mais j'avais plutôt l'impression que c'était entre deux et que voilà, ça me concernait pas spécialement, quoi. Donc oui, elle avait une certaine distance, Et elle avait bien compris que mon grand-père jouait énormément sur la séduction avec les femmes. Et c'est vrai que c'était quelqu'un de très sexué, quoi. Enfin, qui avait vraiment, qui faisait souvent des allusions sexuelles, qui salissait un peu plein de choses. Et en même temps, qui avait une espèce de charisme, qui était très beau. Donc, qui avait une espèce d'excuse un peu, enfin tout lui était un peu dû. Donc ma mère est arrivée dans cette ambiance dans la famille de mon père et donc elle a senti, je pense, que c'était quelqu'un dont il fallait se préserver, mais je pense qu'elle n'a pas imaginé 3 secondes que ça pourrait être sur des enfants, en fait, cette appétence sexuelle chez lui. Je pense qu'elle n'avait pas imaginé que ça pouvait nous toucher. Ouais.
Alors, toi, vraiment, hein, t'inventes n'importe quoi pour te faire remarquer, hein?
Non, pas papy.
Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas mis mon sonotone.
Excuse-moi, ma chérie, j'ai pas le temps, d'en parler une autre fois.
De toute façon, c'est moi sa préférée.
Selon la Civise, un adulte sur 10 a été victime. 80% sont des filles et ça relève à 2 à 3 élèves par classe. C'est étonnant alors que l'éducation sexuelle est actée depuis 2001. C'est une obligation dans la loi. Mais il y a quand même un manquement. Est-ce que vous avez reçu, vous, une éducation sexuelle quand vous étiez plus jeune? Quelles informations vous avez reçues?
Alors moi, j'ai reçu une éducation sexuelle très... sur la reproduction. Voilà, donc ça, c'était des choses dont on a parlé quand même, mais jusqu'à un certain âge. Après, une fois que la sexualité... une fois qu'on était en âge d'avoir une sexualité, on n'en a plus parlé, quoi. Donc voilà, on savait comment on faisait les bébés, ça, il n'y a pas de problème, mais pas au-delà.
Et vous n'aviez jamais été alertée sur le fait que l'agresseur peut être aussi dans la maison? C'était l'agresseur dehors?
Ouais, c'est ça. C'était ce que tout le monde pensait à l'époque et pense malheureusement encore aujourd'hui, qu'on craint plus de quelqu'un qu'on connaît pas plutôt que du grand-père ou du tonton ou de la tata.
Et que dites-vous donc aux parents qui pensent que c'est trop tôt? Vous qui avez entrepris ce spectacle, on va y revenir, est-ce que vous pensez que l'éducation affective et sexuelle, c'est trop tôt à partir d'un certain âge, sachant que votre spectacle, je crois, donc est destiné à des enfants au bas âge, de plus bas âge, quoi, pour comprendre vraiment, par l'art évidemment, ce propos-là et la notion de consentement?
Alors c'est vrai que c'est pas évident. Effectivement, en tout cas, moi, ce qui me semble important, c'est de ne pas aller au-delà de ce que les enfants attendent au niveau des infos dont ils ont besoin. Donc, de bien essayer de cerner à quel niveau d'infos ils en sont là et jusqu'où on peut aller. Donc, bien partir de leurs besoins à eux. Mais ça me paraît évident que des tout petits, ils doivent sentir à quel moment... eux ont le droit de faire des choses avec leur corps à eux et à quel moment c'est plus possible que ça soit quelqu'un d'autre qui fasse la toilette ou qui... Et c'est dans le quotidien, en fait. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est pas tant faire une heure d'éducation sexuelle à l'école par an, ce qui est déjà très bien et il faut le faire, mais c'est aussi dans la vie quotidienne à la maison, à l'école, qu'on apprend à se respecter soi-même, à respecter les autres. Mais j'entends que ça peut être trop tôt. C'est sûr qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites trop tôt, mais quand même, le respect du corps, de soi-même, c'est important de l'acquérir dès vraiment très très jeune, quoi.
Mon corps peut sauter, courir et danser. Il s'élance dans les airs et retombe sur ses pieds. Ton corps peut jouer à tout ce qui lui plaît.
Mais il te dit ce qui lui déplaît. Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps à toi, laisse-moi le mien.
ce n'est pas le tien. Tu as ton corps à toi, laisse-moi le mien.
Justement, quelle approche vous avez dans votre spectacle pour leur faire comprendre que l'inceste, c'est un interdit, que les bisous sont interdits, c'est aussi le nom du livre que vous avez écrit avec ce spectacle et ce livre. Quelle approche vous avez pour les enfants? Quel langage? Et qu'est-ce que l'art permet justement là-dedans?
Alors, ce que l'art permet, selon moi, c'est vraiment d'avoir un support, de quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, qui soit amené par un autre biais que juste raconter des choses ou partir d'une anecdote. Et puis, donc le spectacle, c'est un espèce de moment qui est assez poétique, qu'on peut vivre en famille, et après, on peut y faire référence pour discuter. Et le livre, pour le coup, c'est quelque chose de stable, qui est là tout le temps, qu'on peut lire, relire et re-relire. Et donc, dans les deux, tout est quand même assez suggéré. Donc, c'est vrai que ça nous semble important d'avoir un temps de discussion après le spectacle et de se servir de l'outil. Vraiment, il n'est pas descriptif. Je sais qu'il y a un spectacle sur l'inceste où c'est vraiment plus pédagogique, on va dire. Là, vraiment, le spectacle et le livre, ça reste assez suggéré, mais on ne peut quand même pas vraiment passer à côté. Et donc voilà, donc c'est important pour nous d'y revenir. Donc à la fin de chaque spectacle, on prend le temps de répondre aux questions. Et le livre, il est accompagné d'un livret pédagogique qui a été écrit par Lionel Beauchaud, qui est un psychologue spécialisé sur l'inceste, et donc qui permet aux parents ou aux adultes qui lisent le livre aux enfants d'avoir des pistes pour pouvoir débattre avec les enfants.
Et autant le livre que le spectacle s'inspire d'une histoire, de votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Comment elle prend forme, votre histoire, dans cet imaginaire-là?
Moi, j'ai eu envie de partir, évidemment, de ce que je connaissais, de ce que j'avais vécu, mais d'en faire quelque chose de plus universel, où il y a d'autres personnes qui peuvent s'y retrouver. Et j'avais pas envie de raconter... De mettre ma petite histoire au centre de ces deux œuvres. Donc voilà, j'ai eu envie à un moment j'ai eu besoin de le sortir de moi, d'en parler, et puis j'ai eu envie aussi que ça serve à d'autres personnes qu'à moi-même, quoi, que mon histoire puisse être transposé dans un spectacle, c'était un moyen de mettre de la distance pour moi et puis de le rendre poétique, regardable.
Par le cirque et par cette histoire de la petite ours. On reprend souvent la figure de l'animal. Hein. J'ai souvent entendu le loup, ici l'ours. Pourquoi l'ours en particulier?
L'ours, c'est un peu notre double sauvage. Quand même si, pendant des millénaires, on a vécu avec l'ours. Pendant très longtemps, on a vécu avec l'ours à côté de chez nous, quoi, vraiment. Et donc, je trouve ça intéressant de faire le parallèle entre cette espèce d'homme sauvage et nous. Et puis, dans la littérature jeunesse, il est quand même très présent. Donc, c'est une figure qui parle beaucoup aux enfants. Ouais, moi, j'aime bien ce mélange humain. Humain, animal, ça permet aussi de mettre de la distance. Aussi pour moi, dans le temps, dans le travail de création, ça a été important que ça ne soit pas moi qui joue mon histoire. Voilà, donc j'ai créé un personnage un peu parallèle, qui ne parle pas beaucoup aussi. Au début aussi, parce que j'avais du mal à dire tout ça. Donc au début, c'était un spectacle et un personnage qui parlait beaucoup moins. Et petit à petit, la parole s'est libérée aussi de mon côté.
Oui, ça vous a aidé.
Ouais, bien sûr. Ouais. C'est vrai qu'au moment de démarrer le spectacle, je me disais que j'avais assez avancé, moi, dans mon histoire pour pouvoir en parler. Mais en fait, ça a fait partie du processus pour arriver à sortir tout ça, quoi.
Et par cette expression artistique, par cet imaginaire hein, qui est le vôtre, mais que vous avez essayé vraiment d'illustrer par le cirque, par cette histoire de la petite ours, les enfants sont interpellés et vous dédiez un temps avec eux à la suite du spectacle pour essayer d'échanger, voir ce qu'ils ont compris, ce qui les ont marqués. Quelles sont leurs premières réactions à la suite de ce spectacle? Quelles questions ils vous posent?
Alors, c'est très varié. Il y a des enfants qui vont être plus intrigués par la technique, vraiment, du cirque qu'il y a dans le spectacle. Et puis, il y a des enfants aussi qui, assez rapidement, viennent sur pourquoi le papy il est méchant et pourquoi on l'exclut dans le spectacle. C'est vrai que selon les enfants, ils n'ont pas tous l'info que l'inceste existe, qu'il y a des gestes interdits. On voit bien les enfants qui, avant un certain âge, qui n'ont pas forcément connaissance de ça, et quelque part tant mieux. Et puis, il y a une double lecture dans le spectacle. Et donc, les questions à la fin sont un peu liées à ça aussi, à qu'est-ce qu'ils ont vu ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas tout à fait vu. Et puis, des fois, ils ne sont pas à l'aise pour poser les questions qui dérangent. Mais voilà, on essaye quand même toujours de, au moins, aborder l'interdit. Voilà, de certains gestes, les parties intimes qu'on n'a pas le droit de toucher, enfin, qu'un adulte n'a pas le droit de toucher ou qu'un plus grand, et qu'eux n'ont pas le droit de toucher non plus. Mm. Parce que c'est vrai que, moi, on me touche pas le zizi, mais faut aussi dire que toi, non, t'as pas le droit non plus de taper les fesses de ton copain pour un oui, pour un non, quoi.
Bien sûr.
Si jamais ça arrive, à qui est-ce qu'on peut le dire?
À maman.
Vous avez des idées?
À qui est-ce qu'on peut le dire?
Qui va pouvoir entendre et nous aider?
La police! La police!
Ouais.
La police!
Attends, il y en a qui lève la main? Vas-y.
La maîtresse,
par exemple. Ouais.
Une personne où on fait confiance.
Une personne à qui on fait confiance. C'est ça le plus important. Autour de vous, il y a forcément des adultes de confiance.
Au monsieur de la République.
Au monsieur de la République. Ouais. S'il y a un monsieur qui est très important, qui peut vous écouter tout à fait, c'est le procureur de la République. C'est lui qui va déclencher le processus, si vous voulez. Souvent, c'est une lettre qu'on lui fait. Mais la maîtresse, c'est une bonne idée, ou les gens du centre de loisirs, ou... Voilà. Mais des gens en qui vous avez confiance. Et si jamais la première personne à qui vous allez le dire, elle ne vous entend pas, elle ne fait rien, il faut chercher quelqu'un d'autre.
Au-delà de la médiation, il y a aussi la pratique artistique. Ça peut être parfois difficile pour l'enfant de parler, de mettre des mots sur les violences qu'il peut subir à la maison. Est-ce que vous les incitez à pratiquer ces arts-là au sein de la Compagnie des Chimères ou à s'exprimer avec toute forme d'art, dessiner, chanter, faire peut-être du cirque? Pour vous, s'exprimer par les arts, ça peut aider vraiment à comprendre ce qu'on subit?
Oui, en tout cas, c'est sûr que c'est développer les moyens d'expression, ça fait forcément qu'à un moment, on va plus facilement dire des choses ou exprimer des choses par le dessin, par le corps. Donc, plus on offre de possibilités, mieux c'est. Et je pense que plus on est équilibré, qu'on ait subi des violences ou pas, on a besoin d'exprimer des choses. Et après, l'avantage qu'on a avec ce double projet, c'est que du coup, effectivement, on peut proposer des ateliers sur le théâtre, l'expression avec le corps et aussi sur le graphisme, l'écriture. Donc, c'est vrai que ça offre beaucoup de possibilités pour s'exprimer, ouais.
Suite à votre intervention dans les écoles?
Oui, c'est plutôt vraiment dans les interventions de médiation suite au spectacle. Et après, donc, moi, dans mes ateliers cirque, j'ai quand même une vigilance sur la place de chacun, sur le respect du corps, sur ce genre de choses. Et puis, si l'occasion se présente de discuter égalité ou sexualité, ma foi, je prends. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir échanger de manière informelle aussi. C'est important.
sur le vif. Sur le vif.
Et sur le territoire, pour représenter votre spectacle, est-ce que vous avez eu affaire aussi à des rejets ou à des personnes qui n'ont pas envie, en tout cas en termes de collectivité, de mairie, n'ont pas envie d'aborder ce sujet ou de vous programmer dans un festival artistique des arts, de ne pas lier peut-être art et prévention autour des violences?
Alors c'est vrai que oui, les festivals, ils veulent des choses festives et s'ils n'ont pas vu le spectacle, ils ne vont pas avoir très envie de le programmer. Alors qu'en fait, ça passe très très bien en festival, justement aussi parce que c'est des familles et que les gens sont là pour passer un bon moment et qu'en fait, ce spectacle, il reste quand même assez drôle et accessible.
Alors comment expliquer ces peurs-là ?
Ben, les gens ont peur des réactions, je pense. Et puis, comme personne ne sait vraiment gérer qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dire, s'il se passe ci, s'il se passe ça, ben, personne ne veut prendre le risque.
Est-ce que c'est une peur que l'enfant n'est pas en mesure de comprendre ou que ça peut lui mettre dans la tête des idées bizarres?
Ouais, il y a ça aussi. Il y a des gens qui disent « Ah ben non, on n'en parle pas, ça va lui mettre des drôles d'idées dans la tête, vaut mieux qu'il ne sache pas que ça existe, plutôt qu'il sache que ça existe ». Bon, voilà, c'est délicat, hein. Je pense que c'est en... Moi, je sais que plus on va jouer, plus on va parler de l'inceste, plus on va lire le livre, voilà, moins il y aura ce genre de frein, quoi. Mais...
D'ailleurs, ce livre, vous le donnez à chaque fois, enfin, en tout cas la communauté de communes Valérieux, vous avez pu offrir à chaque enfant le livre Les bisous interdits, suite à la représentation du spectacle.
Oui, ça, c'était vraiment chouette de la part de Valérieux d'offrir ça à tous les enfants, ça ramène aussi ça dans les familles, parce que donc là, on a fait beaucoup de spectacles avec un public captif, entre guillemets, donc qui n'avait pas spécialement choisi de venir, puisqu'il venait soit avec le centre de loisirs, soit avec les écoles. Et donc voilà, là, ça ramène le livre à la maison. Et voilà, du coup, en famille, on peut éventuellement ouvrir le livre et en discuter. Donc, ouais, c'est un bon complément.
Et vous avez des échanges aussi avec donc les professeurs d'école ou les animatrices autour de cette éducation affective et sexuelle où vous n'avez pas trop d'échanges? Est-ce qu'ils sentent que c'est un besoin pour eux d'avoir des accompagnements par l'art, par d'autres outils?
Oui, en tout cas, autant on a des blocages assez clairs et autant il y a aussi un accueil très positif d'amener de l'artistique dans le débat, ça permet vraiment une autre approche de la problématique. Et puis, malheureusement, les instituteurs, institutrices n'ont pas de formation, donc ils doivent normalement faire 3 heures d'éducation sexuelle par an, enfin, d'éducation à la vie affective et sexuelle par an. Mais eux, et c'est que les directeurs et les directrices qui ont une journée, qui ont eu une journée de formation. Donc voilà, c'est pas un sujet facile. Si on n'est pas à l'aise, presque peut-être il vaut mieux pas faire de prévention plutôt que mal faire. Mm. Donc on a aussi un accueil positif là-dessus, quoi, sur le fait que nous on arrive avec des outils, avec une expérience, un biais détourné qui n'est pas un cours magistral sur la vie affective et sexuelle. Donc c'est un bon complément et c'est vrai que voilà, on sent qu'il y a une espèce de soulagement aussi de trouver des supports. Après voilà, on reste sur une entrée artistique et on aime bien se faire accompagner par le planning familial ou sur des projets un peu conséquents. C'est intéressant aussi pour nous d'avoir un complément.
Et de plus, 99%, on peut dire, hein, des enfants sont scolarisés. Donc, ils passent la plupart de leur temps, 32 heures hein, peut-être, avec des enseignants. Vous, qui avez été victime, qu'est-ce que vous auriez aimé entendre quand vous étiez enfant à l'école, savoir, pour justement peut-être prévenir ça plus tôt?
Moi, je pense que j'aurais bien aimé qu'on me dise... clairement que c'était interdit et que c'était pas possible, Moi, je savais que c'était pas normal, mais voilà, de là à me dire que c'était vraiment interdit et que...
La notion d'intégrité corporelle, que c'est votre corps et que personne d'autre a le droit d'y toucher.
Ouais, peut-être. Je me rends pas bien compte de ce qui m'a manqué. Je pense que vraiment, ce qui était le plus dur, c'était le fait que ça soit dans la famille. Je pense que peut-être c'est ça, c'est que on sait que c'est pas autorisé, mais effectivement, c'est plus ce côté le vilain monsieur dans la rue. Lui, c'est pas autorisé, il a pas le droit, machin. Mais après, dans la famille,
y a personne que vous aimez en plus.
Bah oui, voilà, quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui est censé nous protéger. Voilà, on sait que c'est pas, que c'est un peu limite ce qu'il fait, mais bon, ça reste le grand-père et voilà. Et cette peur de détruire la famille, c'est quelque chose. C'est insurmontable en fait pour un enfant de se dire, je vais dire ça. Moi, je pense que je savais que ça allait être inentendable et trop violent et au pire, que j'allais plus voir mon grand-père et ma grand-mère. C'était impensable pour moi. Donc, on ne dit rien parce qu'on ne veut pas, on veut pas changer les habitudes, on ne veut pas faire du mal, on ne veut pas... Mais je me rends compte aujourd'hui, et c'est important pour moi de le dire le plus souvent possible, c'est que la famille, elle est déjà explosée. Quand ça arrive, c'est que c'est trop déséquilibré, il y a trop de problèmes.
Puis on grandit avec l'idée que l'amour, ça fait mal.
Et en plus, on grandit avec l'idée qu'on ne peut pas faire confiance aux adultes. Enfin, moi je ne me suis pas sentie protégée, je n'étais pas en sécurité. Et donc, l'amour, ça fait mal. Et en plus, les adultes ne te protègent pas. Donc la confiance aussi dans les autres, c'est quelque chose de compliqué. Hein.
Oui, ça a un impact sur notre vie, comment on se construit plus tard et comment on relationne aussi.
Oui, tout à fait. Après, être toujours sur la défensive, ou toujours, c'est ça, avoir du mal à lâcher prise et à se dire que les autres ne sont pas tous là pour nous faire du mal, ouais, c'est compliqué. Hein.
J'ai déboulé, déboulé, déboulé dans la vie. J'ai déboulé, déboulé, déboulé qui me suit. J'ai déroulé, déroulé, déroulé mon passé. J'ai dû balancer, balancer quelques pavés.
Aujourd'hui, je suis plus beaucoup moins. Je pense que j'ai réglé pas mal de colère chez moi, qui était assez permanente en fait. Donc, en tout cas, j'arrive mieux à avancer. Je me sens moins contrainte par mon passé. Après, voilà, ça reste présent, ça reste en moi. Il y a encore des choses qui se règlent, qui doivent se dire, qui doivent bouger. Mais moi, je suis plutôt rassurée sur l'accueil qu'a eu mon travail dans ma famille. Et puis ce que ça génère aujourd'hui, c'est-à-dire de resserrer les liens avec mes cousins, cousines que j'avais plus depuis longtemps, par exemple. Et la volonté de régler ça, enfin pas de le régler, mais d'en parler, elle est vraiment présente. Et donc je me dis que j'ai fait les choses pas trop mal. Et quelque part, il y a une certaine fierté à arriver à faire ça. Après, il y a aussi, je me sens un peu, pas tributaire, mais un peu, ben, j'ai enclenché ça, donc maintenant, il faut...
Il y a un devoir.
Ouais, voilà, j'ai un peu un espèce de devoir sur cette mission-là de libérer la parole.
Mais vous n'êtes plus dans un processus de culpabilisation où ça y est, vous arrivez à quand même avancer et à vous dire « je suis là, je suis ce que je suis aujourd'hui et je peux être fière de ce que j'entreprends, surtout auprès des enfants pour qu'on ne laisse plus ce sujet sous silence ».
Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, ouais.
Eh bien, je peux que vous dire bravo et félicitations et merci pour tout ce que vous faites sur le territoire et pour nos enfants.
Merci Laura pour tout ce que tu fais.
Merci.
Sur le vif.
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 Sur le vif. Un podcast qui invite à élever la voix, nos voix, contre les violences intrafamiliales en Centre-Ardèche. Une production de RDB Radio des Boutières, avec le soutien et la participation du collectif de lutte contre les violences intrafamiliales en Centre-Ardèche, collectif Viferieux. Un grand merci à Madeleine Villeminot, Elsa Barato et Gaëlle Romeuf pour la création sonore de ce podcast, ainsi qu'à toutes les personnes chez Laroise qui ont prêté leur voix. Retrouvez et réécoutez tous les épisodes sur le vif, les voix de la résilience, en podcast sur rdbfm.com.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes!
Vous venez d'écouter le dernier épisode du podcast sur le vif. C'était un podcast réalisé par Radio Desboutières avec la participation du collectif Viferieux qui avait pour objectif de lever les voix contre les violences intrafamiliales. C'est la fin de cette série de podcasts, mais nous vous donnons quand même rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle découverte sonore. À bientôt.